Vendredi 23 décembre 2011, vous écoutez La Vie en BD sur les ondes de CKRL 89.1. Bonne soirée à tous et à toutes. Bienvenue à cette dernière émission de La Vie en BD de l'année 2011. Bien entendu, on sera de retour par la suite en 2012. Et j'espère que ça se passe bien pour vous. 23 décembre, la date parle d'elle-même quelques jours avant la grosse période des fêtes. Peut-être première lancée en vacances, peut-être fin de première journée en vacances. Je ne sais pas exactement dans quelle situation vous êtes de votre côté. Chose certaine, je suis bien content de vous savoir à l'écoute et de partager avec vous cette dernière lancée de 2011 dans l'univers de la bande dessinée. Beaucoup de beau matériel pour vous en cette émission. On va explorer, bien entendu, l'univers de la bande dessinée sous différentes facettes, à travers différents regards. Notamment, notre collaborateur Michel Giguère sera avec nous en fin d'émission. Il va nous proposer une série de BD, en fait 12 lectures réconfortantes pour bien commencer l'année 2012. Il y aura également Anne-Marie Olivier qui sera avec nous tout à l'heure, qui, elle, s'est inspirée de l'univers festif du temps des fêtes pour ses suggestions de BD de cette semaine. On va allier la bande dessinée à la thématique du vin. De mon côté également, j'ai une belle petite pile de bandes dessinées, des BD dont je veux vous parler depuis déjà quelques temps, mais je vais prendre le temps aujourd'hui de le faire, et peut-être quelques idées cadeaux qui pourraient être intéressantes, en fait du moins c'est des albums, si je ne les avais déjà, que j'aimerais bien voir apparaître en dessous de l'arbre. Et également, on aura le plaisir de rencontrer également en première partie d'émission l'un des auteurs de la bande dessinée Stat. Peut-être en avez-vous entendu parler, c'est une bande dessinée qui se passe dans l'univers des urgences et qui est décrit par des gens qui travaillent, en fait, les deux auteurs qui sont respectivement médecins et infirmiers. Et c'est une bande dessinée qui fait beaucoup parler d'elle, autant dans l'univers médical, autant hors de celui-ci. Beaucoup de projets sur la table également pour eux en route vers 2012. Alors, on mettra tout ça en perspective, donc avec Yves Lessard, ça, ce sera tout à l'heure. Alors, c'est le menu pour l'émission de cette semaine. Et bien entendu, on également vous propose une petite sélection musicale. Comme à chaque semaine, on essaie de trouver un artiste qui nous tente, qui s'y est peut-être également à l'ambiance. Et pour cette semaine, je me suis dit, pourquoi pas aller vers de la musique surf avec la première vraie tempête de neige, on pourrait dire, qu'on a eu cette semaine, avec également les musiques de Noël qui résonnent un peu partout. Je me suis dit, on va y aller pour un choix complètement décalé. On va se transposer musicalement sur la plage californienne. On y va avec une première petite sélection, un extrait de la pièce Let's Go Trippin'. Et au retour, évidemment, on parle BD. quand je disais tout à l'heure ambiance décalée, ben, c'est ce que je visais. J'espère que vous le recevez de la même façon. Et en même temps, ben, c'est pas une période négative de l'année. On se prépare à une petite période tranquille, peut-être arrosée avec un peu de vin, peut-être accompagnée par un peu de BD. On l'a dit d'entrée de jeu. Eh ben, il y aura quelques suggestions autour de ces deux univers. Courtoisie d'Anne-Marie et Olivier, libraire chez Phylactère, qui est au bout du fil. Bonjour.
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va, merci.
Un dernier sprint avant Noël, on peut dire ça?
Oui, tout à fait.
et Anne-Marie, en fait, je disais au départ, en fait, c'est une thématique un peu festive. Et oui, il peut y avoir un alliage entre le vin et la BD, c'est possible.
Tout à fait, puis deux bons alliages en plus que je présente aujourd'hui. Donc, la première qui s'appelle « En cuisine avec Alain Passard », c'est une BD de Christophe Blain, éditée chez Gallimard. Donc, ça raconte, en gros, pendant 2 ans, c'est l'auteur Christophe Blain qui a suivi un chef étoilé Michelin, Alain Passard, en l'occurrence, dans son resto, l'Arpège, et autant dans les cuisines qu'à son potager. Et la particularité de ce chef-là, c'est l'obsession des légumes et le désir vraiment de redonner aux légumes les lettres de noblesse qu'il a un peu perdues parfois dans certaines recettes. Et donc, ça nous donne une BD qui se situe entre le reportage documentaire sur un chef qui est assez inclassable, en fait, et un livre de recettes, parce que, oui, dans le livre, il y a des recettes qui sont franchement originales puis qui ont l'air vraiment appétissantes.
Et tout ça coule bien, je veux dire, il n'y a pas de rupture de ton entre un et l'autre, entre le documentaire et le culinaire, entre...
Non, pas du tout. C'est sûr qu'on n'a pas un rythme qui est classique. On est vraiment sur... c'est un personnage qui est Christophe Blain, mais bon, qui suit vraiment ce chef-là à la trace. Et ça donne quelque chose de très vivant, de très rythmé aussi, et particulièrement appétissant parce qu'on regarde ce chef-là qui a un amour de son travail assez incroyable. Et quand on parle de recettes, c'est des recettes assez originales. Et ce chef-là fait attention à la composition de ses assiettes, par les choix de couleurs qui sont minutieusement choisis, en fait, à partir des légumes, des vinaigrettes et tout ça, qui font une espèce de d'œuvre dans l'assiette en miniature. C'est fascinant et on voit tout ce processus à travers l'observation de l'auteur. Et on voit aussi tout à fait le ce qui a l'air bon, parce qu'on voit l'auteur perdre connaissance presque à chaque fois qu'il goûte un des plats qui sont proposés.
Et à l'intérieur de ça, en fait, bon, pour beaucoup, Christophe Blain, c'est Gus. Plus récemment, c'est l'excellente série Quai d'Orsay. Et c'est un dessinateur qui a quand même un trait assez distinctif.
Oui.
De quelle manière il insère l'univers de la cuisine, l'univers d'Alain Passard à l'intérieur de son univers à lui?
Ben en fait, c'est qu'on a, on reconnaît tout à fait le trait de Christophe Blain à travers cette bande dessinée-là. À mon avis, en fait, il a vraiment réussi à intégrer son style sans se dénaturer, mais vu qu'il y a une courbe assez vivante aussi, ça se compose très bien avec l'univers de la cuisine qui est très rapide, surtout quand on arrive au ce qu'on appelle au coup de feu, donc au départ quand le service commence, avec les mouvements aussi des serveurs, des cuisiniers et des aliments aussi en quelque sorte. Donc on a quelque chose qui ressemble à Christophe Blain, mais qui est adapté à un contexte où on l'attendait peut-être pas.
Et le récit sur l'année, donc on réussit à avoir quand même une progression, ou c'est vraiment une suite d'anecdotes, de moments, de moments partagés entre l'auteur et son sujet?
On a un fil conducteur, vraiment. En fait, ça se passe, c'est sûr que sur 2 ans, il y a un gros résumé, mais on passe vraiment au travers le chef en tant que tel, sa relation avec son produit, sa relation avec ses employés aussi, qui est particulièrement intéressante parce qu'on a quelqu'un qui prend autant soin de son personnel que de ses légumes, en fait. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est d'aller voir les potagers, parce que ce chef-là ne se contente pas de faire venir de distributeurs. Il produit lui-même ses légumes et des variétés rustiques. Donc, on connaît pas tous là ici. Et donc, ça donne un lien du début à la fin, qui est finalement l'amour du produit, le désir d'offrir quelque chose de qualité et véritablement le plaisir de manger aussi.
Et en fait, la grande question maintenant, c'est de voir si les recettes aussi se font bien à la maison. Le temps des fêtes pourra nous le dire.
Le temps des fêtes pourra le dire, mais je peux vous dire qu'ils ont l'air particulièrement appétissantes. Et moi, je vais m'empresser d'en tester quelques-unes, ça c'est sûr.
Alors ça, c'est En cuisine avec Alain Passard, c'est chez Gallimard, c'est de Christophe Blain. Et la deuxième BD sur laquelle t'attires notre attention cette semaine, Anne-Marie, Olivier, on reste dans la BD documentaire et on reste dans le parcours et la relation entre un auteur et un sujet. Là.
Oui, tout à fait. Qui s'appelle donc Les Ignorants, une BD de Étienne Davaudeau, édité chez Futuropolis. Une BD qui m'a plu particulièrement. C'est sûr que ça concerne deux univers qui m'attirent énormément, soit le vin, la bouffe et la bande dessinée, bien sûr. Et donc, on a un autre type de BD reportage, comme tu disais. Et le titre porte le nom d'Initiation croisée, et c'est vraiment bien choisi, parce que pendant un an, Étienne Davaudeau a suivi le vigneron Richard Leroy, qui est installé en Anjou. Et ce vigneron-là, donc en retour, s'est immergé dans le monde de la BD. Et les deux apprentissages, en fait, des deux apprentissages est née cette BD-là, qui est une espèce aussi de journal de bord pour les deux protagonistes. Chacun d'eux explique à l'autre son travail, chacun écoute et chacun apprend. Donc, ça donne aussi une BD qui est très respectueuse du travail de l'autre et qui met en lumière deux univers a priori différents, mais qui finalement, après avoir étudié chacun des comportements, on retrouve des similarités fascinantes. Et pour le bédéiste, en fait, qui n'y connaissait pas grand-chose au vin, s'est initié au sol, les vendanges, la taille de la vigne, qui est le gag récurrent, parce que la vigne, ça n'attend pas. Et pour le vigneron, ben pour lui, ça a été les visites chez l'éditeur, des réunions, les salons de la BD, des ateliers. Donc, un univers fascinant, puis on a senti beaucoup aussi l'implication des deux côtés, et c'est ça qui est vraiment agréable, en fait.
Et en même temps, c'est intéressant, autant pour l'amateur de vin, autant pour l'amateur de BD, parce que pour nous, en tant que lecteurs, ça nous permet de forer dans ces deux univers-là, qui sont quand même aussi, ils ont leur degré de mystère, on pourrait dire.
Tout à fait. Puis, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur de bande dessinée, donc, a fait découvrir des crus du 9e art. Alors, on parle beaucoup d'auteurs tels que Lewis Trondheim, on parle de Marc-Antoine Mathieu, entre autres, de Arch Bigman. Et en retour, ben le vigneron nous fait rentrer dans son univers avec d'autres vignerons qui pratiquent le métier de vigneron de manière similaire ou un peu différente, mais on est initié au principe aussi des cultures bio, de la biodynamie, du produit, du terroir, et c'est ce que Étienne Davaudeau parle aussi dans la bande dessinée, des bandes dessinées qui sont faites avec beaucoup de recherche, beaucoup de recul aussi, et beaucoup d'attention et d'intimité. Donc, on rentre dans des univers qui sont fascinants, une bonne brique aussi, une belle lecture de vacances, et c'est très intéressant au niveau BD et au niveau vinicole aussi.
Oui, parce qu'au niveau de la mise en scène, en fait, justement, de quelle manière on réussit à mettre en parallèle ces deux univers-là, de quelle manière on réussit à rythmer le tout pour bien passer de l'un à l'autre et bien saisir aussi, justement, c'est, comme tu disais, c'est les rapprochements qu'on peut faire entre les deux univers.
Ben c'est véritablement le chassé croisé qu'on retrouve sur le titre et présent dans la bande dessinée. C'est que alternativement on rentre dans l'univers du vigneron et après ça alternativement on rentre dans l'univers du bédéiste. Et le fil conducteur, comme je disais, est vraiment véritablement lié à la vigne, parce que la vigne, elle n'attend pas. Quand on doit couper et quand il arrive des événements climatique, eh ben il faut se précipiter vraiment pour aller voir qu'est-ce qui se passe et comment la vigne réagit. Donc c'est sûr qu'à travers une invitation au salon de la BD ou une réunion avec un éditeur, ben on a le vigneron qui est plutôt impatient et qui se soumet avec passion en fait au travail du BDiste, mais qui lâche jamais le morceau en disant après on va couper, après on va couper, après on va couper la vigne. Donc ça donne un rythme qui est soutenu et qui donne au lecteur aussi le goût de passer d'un à l'autre sans vraiment jamais se perdre.
Alors ben ça c'est le titre, donc Les Ignorants, c'est d'Étienne Davodeau, c'est disponible chez Futuropolis. Anne-Marie Olivier, merci beaucoup pour ces suggestions.
Merci, ça m'a fait plaisir.
Et on souhaite de joyeuses fêtes.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Au revoir.
Voilà Anne-Marie Olivier avec deux suggestions BD, donc je vous rappelle Les Ignorants d'Étienne Davodeau et En cuisine avec Alain Passard. Et nous ben on poursuit l'émission toujours ici La vie en BD. Un petit extrait de Dick Dale, toujours pour trancher un peu avec la neige. Ça, c'est une pièce d'un film qui s'appelle Back to the Beach. La pièce s'appelle Pipeline. C'est en duo avec Stevie Ray Vaughan. Et maintenant, nous, on plonge dans l'univers des urgences avec la bande dessinée Stat, une bande dessinée créée par François Paquette et Yves Lessard, qui s'intéresse évidemment à l'univers des urgences. Une bande dessinée qui est sortie au début de l'année, en fait, au printemps dernier, en avril, qui s'est retrouvé de manière encore un peu plus intensive en librairie en décembre. Donc c'est un peu du rattrapage pour nous, un rattrapage qu'on jugeait nécessaire. Et l'un des auteurs donc est avec nous ce soir, Yves Lessard. Bonjour.
Oui, bonjour.
Alors en fait c'est une bande dessinée, je le disais, qui est sortie depuis déjà un bout de temps, qui a beaucoup fait jaser, public qui s'est élargi, les bandes dessinées qui se sont retrouvées aussi dans des publications médicales, différentes associations au Québec, en France. Mm-hmm. Je veux dire, on peut dire que pour une première lancée, c'est un très beau succès là jusqu'à présent.
Pour le temps qu'on a mis jusqu'à date, comme je te l'explique tantôt, on a des vies professionnelles puis des vies familiales assez chargées. Je crois que ça a été un exploit de réaliser ça, 15 minutes par-ci, une demi-heure par-là, pour créer cette petite bibitte-là. Puis pour 2012, là, c'est très motivant. Là, on a un carnet de travail là qui est moins déjà là. J'étais en période de réflexion pour reciduler, mettons, mon travail à l'hôpital, puis du même du côté de François. Mais ça a été une année vraiment excitante pour Stat cette année.
Oui, parce qu'en fait, vous mentionnez vos emplois, en fait, infirmier, médecin, vous travaillez en urgence les deux, vous l'avez mentionné, ça a été un sacré défi déjà, simplement, de pouvoir la dessiner dans un horaire qui est quand même passablement hectique. Du moins, on a l'impression que c'est un métier qui est extrêmement hectique, extrêmement demandant.
Il faut dire une chose aussi, c'est que c'est de s'organiser dans ce genre de train de vie-là, mais c'est une passion pour nous autres, moi, du côté de François, puis de mon côté, c'est que c'est une manière, mettons, de se défouler, mettons, de relaxer en dehors du travail. Et François, c'est un passionné de bande dessinée, il m'a montré sa collection de bande dessinée dans son sol, ça en est ahurissant, là. Moi, je pensais de m'attendre de voir des Larousse médicales, puis tout ce qu'il y avait d'inimaginable pour un médecin, mais ça a été le contraire total. François, c'est un fan de Star Wars, c'est un fan de BD française, même il m'a montré ses vieux pifs quand j'étais jeune, je lisais ça aussi. De mon côté, j'étais toujours été fasciné par Charles Schulz, Marvel, je suis un peu américanisé, mais du côté francophone aussi, j'ai grandi avec des Astérix, bon, tout bien classique.
Donc, ce qui fait que le médium s'est imposé à un moment donné. C'est le projet de BD est né un peu de cette passion mutuelle-là.
C'est bien ça. Puis là, présentement, ça se ne limite pas seulement du côté de la bande dessinée. Bon, on a eu des contrats avec avec des agences gouvernementales. On a une visibilité du côté de la santé qui a été vraiment exceptionnelle. François a des contacts, du côté de la santé publique, du côté, mettons, du gouvernement. Moi, de mon côté, du côté culturel, du côté de la BD, j'ai des contacts. J'ai été caricaturiste pigiste à Ottawa à peu près une dizaine d'années. Donc, j'ai continué à avoir des contacts avec des amis là-bas. Ce qui est drôle, on n'a vraiment pas sollicité qui que ce soit pour Stat et c'est arrivé dans notre face. Et ça a été vraiment exceptionnel.
Oui, et l'album, en fait, pour l'anecdotique, est édité chez Moelle Graphique. Et si je me trompe pas, Julien, l'éditeur de Moelle Graphique, Julien Poitras, travaille aussi dans le milieu médical.
Exactement. Julien, on pense de connaître les gens. Ça fait à peu près 10 ans que je connais les gars. Bon, on travaillait à l'urgence dans le temps. Et l'année dernière, Julien, là, il m'a montré son côté sombre de la force, comme on dit. Il m'a montré son atelier. Il m'a montré sa passion pour le dessin. Puis ça a été, je crois que moi puis François, on a une genre de synergie un peu comme Maurice et Goscinny. Puis on a notre Darth Vader avec Julien. On a eu une belle expérience du côté du Salon du Livre. On s'entendait, on n'avait pas d'objectif, mais ça a été énergisant. Ça a été, en plus de voir les gens dans le milieu du côté infirmier, infirmière, médecin, qui sont intéressés à la bande dessinée. Il y a des gens en dehors du milieu qui ont comme cliqué. Là, présentement, le livre est en vente dans des librairies. Ça a été fait, mettons, à la dernière minute, là, mais ça a été, sérieusement, jusqu'à date, les réactions sont vraiment étonnantes. Puis, jusqu'à date, là, on est vraiment comblés.
Et en fait, pour situer, donc la BD, ça s'intéresse justement à l'univers médical, à l'univers de l'urgence. Mm-hmm. C'est un peu en fait des anecdotes vécues ou racontées ou relayées que vous mettez un peu en script, vous développez côté BD.
Mm-hmm. Il y a une évolution du côté de l'histoire, c'est qu'on a un peu tiré partout là. Bon, c'est sûr que l'inspiration de notre travail, de notre quotidien est là-dedans. Bon, aussi quand on fait du brainstorming, on prend un sujet puis on l'exploite, mais là on a une genre d'évolution maintenant, on s'en va plus dans la salle d'urgence, on s'en va plus dans la salle de trauma, dans les salles d'évaluation, dans la salle d'attente bien entendu. Récemment, on a fait un brainstorming qui s'est très bien terminé avec quelques bouteilles de vin, mais on a eu beaucoup d'inspiration. Mais pour le monde, quand il achète le livre présentement de Stat, bon, il y a, bon, c'est le basic, c'est la pointe de l'iceberg. Qu'est-ce qui s'en vient pour 2012, comme je l'expliquais tantôt?
Il y a beaucoup de choses sur la table. Ça continue de se développer, et j'imagine, parce que ce qui est important de dire aussi, il y a l'album, il y a aussi statcomic.com, statcomics au pluriel, où vous êtes quand même extrêmement actif sur la toile, une BD par semaine en couleur. Donc, ça vous permet aussi, j'imagine, de continuer à développer, à maîtriser l'univers que vous avez créé pour l'album au départ.
Ce qui est étonnant aussi, quand on l'a vu au Salon du Livre, on a vu des fans que, bon, qu'on n'a pas eu à contacter. On les a vus live, comme on dit, au Salon du Livre. Puis c'est incroyable. Maintenant, on a des personnes qui, du côté de l'Europe, même on a une possibilité d'avoir une ouverture du côté de l'Asie. Des salles d'urgence, il y en a partout dans le monde. Ça, c'est un concept. Là. Même il y a des illustrateurs, des cartoonistes qui nous sont venus nous voir, puis ont dit, vous avez un maudit bon concept.
Oui, parce que on dirait que j'essaie de réfléchir à savoir est-ce qu'il y en a beaucoup de BD comme ça qui s'intéressent à l'urgence, mais finalement, il y en a très peu, voire pas du tout. Là.
On parle des femmes en blanc, un peu en Europe. Ça a fait fureur il y a quelques années, puis on dirait que ça a comme stagné un petit peu. Là, c'était rendu que on a sorti un petit peu du milieu d'urgence. Aux États-Unis, le marché, on a fait, moi et François, on a fait le tour, et il y a peut-être certaines petites cartoons, là, des one strip qui ont été faits jusqu'à date. Je crois qu'on s'en va, on va avoir un peu l'exclusivité de ce credo-là. Mais jusqu'à date, là, nos personnages sont vraiment soudés. Notre style de dessin, bon, mon style de dessin plutôt, comme on dit, est comme vraiment bien maîtrisé. J'avoue honnêtement, 2012, côté de créativité, là, ça va être vraiment excitant. Je suis très motivé pour l'an prochain.
Et vous parliez tout à l'heure, en fait, que vous aviez grandi beaucoup aux BD américaines. On mentionnait les Peanuts, notamment, de Schultz et quelques autres. Est-ce que c'est ce qui a fait aussi qu'au départ, vous vous êtes lancé dans le strip? Parce que ça se passe rapidement dans Stat. C'est deux cases, trois cases, ce format un peu journal.
Oui.
Est-ce que c'est cette influence-là qui vous a amené vers le format?
Là, on va tirer partout, honnêtement. On peut faire comme un one shot, un peu comme une page éditoriale, comme une case éditoriale, comme on peut avoir une scénarisation d'une page. Il y a pas de limite même. On parle de faire, on a eu des offres pour faire de l'animation.
Okay, donc ça a été le premier cadre, mais après ça, l'idée, c'est d'éclater ce cadre-là, puis d'essayer de faire vivre dans différents contextes, dans le fond, les personnages qui ont été créés au départ. Donc, de pas se limiter, au contraire, à un style, à un type de gag.
Stat, pour dire bien honnêtement, c'est une petite bébite avec plusieurs tentacules. Sérieusement, là, c'est un petit bébé qui est en train de devenir un petit monstre, mais je suis quand même, moi et François, on est quand même deux pieds sur terre. C'est sûr que c'est exigeant, mais c'est un thrill. J'ai tellement hâte de voir la prochaine réunion de brainstorming. Là, ce qui est avantageux avec des médecins, eux autres, ils sont capables de se payer du vin d'excellente qualité. Ça fait que brainstorming, ça fait très bien mon affaire. Mais sérieusement, pour 2012, Stat va, je pense, qu'il va avoir une excellente visibilité.
Et justement, parlons-en un peu de brainstorming, la création. Comment ça se passe un peu? Est-ce que on a le calepin, on note les idées, ensuite on essaie de les scénariser? Comment ça se développe une planche, un gag, une image dans Stat?
Ben, on parle un peu de nos affaires quotidiennes. Qu'est-ce qu'on a eu comme récemment au travail, même des anecdotes dans le passé. Peut-être que ça peut être il y a un an, 5 ans, 10 ans. On garde ça sur un bout de papier. On a un programme avec Evernote, donc on a une banque d'informations. On a peut-être présentement jusqu'à 150 à 200 idées de strip. Moi, là, qui avec son petit crayon à la main droite, là, c'est lui qui va y faire prochainement. Durant le temps des fêtes, je me projette de m'en faire au moins 50 strips. Mes esquisses sont toutes faites. Il me reste seulement les ancrer. Quand François va entendre ça, il va comme vraiment triper. C'est du brainstorming. On tire partout. Comme j'expliquais tantôt, on tire partout. Puis là, on est comme plus discipliné. On s'en va plus dans notre milieu, là, côté médical. C'est ça que le monde veut voir.
Parce qu'il y a quand même le défi de bien les rythmer, justement, de savoir, OK, est-ce que cette situation-là, c'est une image? Est-ce que cette situation-là se décline bien sur trois? Comment réussir à puncher? Puis, oui, on connaît la situation des urgences, mais reste qu'il faut quand même établir les bases pour le gag. Il faut que ça se tienne. Il faut que ça se rythme en quelques cases. C'est quand même un bon défi.
C'est un bon défi, mais ce qui est drôle, c'est que ça se fait tout seul. C'est comme le monde me demande comment tu fais pour dessiner. Si j'ai fait des cours en art, des choses comme ça. C'est comme dans le film Ferris Bueller. Je sais pas si tu as vu le film. Ben, je suis autodidacte. J'ai commencé à dessiner avec mes professeurs il y a plusieurs années. Finalement, ça servait à quelque chose, finalement. Mais sinon, sérieusement, ça vient tout seul. On fait du brainstorming. On se complique pas la vie. Puis déjà là, on a des gags là. Bon, on a fait des gags il y a quelques semaines, quelques mois. On les regarde, puis là, on y refignole un peu, puis on sort quelque chose de vraiment intéressant. On peut toucher à de l'humour général, comme l'humour qui peut être même hardcore. Je t'en réserve quelques-unes pour 2012.
Et donc, ça veut dire que vous donnez quand même un recul par rapport à vos strips, justement. Vous les faites, vous les laissez mijoter, vous retournez là-dessus, voir, OK, avec le recul, est-ce que ça marche encore?
Puis... Oui. Il y a certaines cartoons que, bon, c'est scellé, c'est booké, il n'y a pas de problème. Comme quelques-unes, je regarde, pour moi, mon dessin, je dis, bon, je recommence, je le refais, je le revampe. Comme un gag que moi et François, on a trouvé, puis on a aussi une équipe d'autres médecins, docteur David Laflamme qui nous collabore avec nous pour des idées. C'est une machine à idées, ce gars-là. On part sur un petit sujet, on peut parler peut-être d'un crayon ou d'un matériel médical. On part là-dessus, puis d'un coup, là, c'est débile.
Et parallèlement, en fait, parce que il y a déjà Edel Thomas, il y avait une petite galerie de personnages. Est-ce que la première étape, ça a été de découvrir un peu les gags, après ça, d'essayer de bâtir des personnages récurrents là-dedans, ou est-ce qu'on est parti par les personnages ensuite? Donc, quand sont-ils arrivés, dans le fond?
Bon, au départ, on a comme scellé nos personnages au départ. On voulait comme... Bon, à un moment donné, François, il me demande, il dit, fais-moi des strips de certains personnages. Ça a été... C'est comme j'expliquais tantôt, ça a été très simple. J'ai fait des esquisses, puis ça a été très très fluide. Du côté des histoires, ben il y a une évolution, comme je dis que on se laisse aller, puis on a comme des idées, puis il y a une évolution, comme on dit, du côté des personnages. Il va y avoir d'autres personnes qui vont se rajouter. C'est-à-dire un personnage du côté un ambulancier, on va l'appeler NASCAR Villeneuve. Une allothérapeute, il va y avoir aussi... Là, on s'est aperçu que... Bon, on n'a pas de personnage côté multiculturel. On a trouvé qu'on a un médecin spécialiste, il va être d'origine afro-américaine. on voulait pas, comment je pourrais dire, embarquer, on est obligé de faire un tel personnage, telle chose, on se laisse aller tout simplement. Donc, beaucoup dans la réalité, ce qui est le fun avec Stat, c'est que ça représente tel quel le quotidien du monde qui travaille dans la santé. Il n'y a pas de stéréotype.
Et Yves Lessard, en terminant, justement, est-ce qu'on a l'impression que des BD comme ça, pour le commun des mortels qui est extérieur un peu à cet univers-là, que ça risque de donner une autre image des urgences que celle qui est véhiculée, qui n'est pas nécessairement toujours positive ou qui est assez intense aussi par rapport à cet univers-là? Donc là, on a le côté humoristique. Je veux dire, on se dit, mon Dieu, ils ont du fun à l'urgence, dans le fond, des fois.
Disons que je m'en vais travailler cette nuit, là. Je sais pas si je m'en vais du fun cette nuit, puis François aussi. Sérieusement, indirectement, ça donne un certain enseignement pour voir qu'est-ce qui se passe en dehors, en arrière des murs, mettons, de la salle d'attente. Des personnes attendent, mettons, pour se faire examiner. Il y a un mur qui les sépare. C'est une manière de faire découvrir ce petit monde-là.
Alors, bon, on invite les gens à aller l'explorer avec vous. Donc, le tome 1, Stats, une urgence en BD, qui est disponible chez Moelle Graphique, je crois que notamment chez Renaud Bré, oui. Chez Phylactère également.
Planète BD à Montréal aussi.
Et sinon, le site web statcomics.com, et à partir de là, ben, vous avez tous les liens autour de cet univers-là et pour avoir d'autres BD, puisque vous êtes là une fois par semaine. Alors, ben, Yves Lessard, merci beaucoup.
Joyeuse fête, puis on se redonne rendez-vous en 2012.
Oui, parce qu'avec tous les projets que vous avez, je pense qu'on n'aura pas le choix de se recroiser.
Aucun problème. Salut bien.
Alors, merci beaucoup. Alors, Yves Lessard, donc l'un des auteurs de Stats, je le rappelle, chez Moelle Graphique. Nous, on prend une courte pause, encore à venir à la vie en BD. Notamment 12 suggestions BD pour 2012, 12 suggestions réconfortantes pour bien commencer l'année.
Ce vendredi, pour célébrer Noël, l'Automax garantit un gros lot de 50 millions de dollars plus deux lots de 1 million avec les Max Millions. Joyeuse fête!
Le 31 décembre. Les Disques Nomades et le Grand Théâtre de Québec vous invitent à faire partie de la famille. Une soirée festive au son des artistes de la scène émergente. Isabeau et les chercheurs d'or, Tire le Coyote, Who Are You et plusieurs invités. Un service de garde est offert sur place. Le 31 décembre, 20h, à la salle Octave Crimazy du Grand Théâtre de Québec. Billets sur Billettech, collaboration Studio Éléments et CKRL.
Ah, les fêtes de Noël! Le contraste entre la froidure de l'extérieur et la chaleur des retrouvailles familiales est une des beautés de notre culture. Alors, prenez et donnez des nouvelles, visitez, voisinez, oubliez le temps en agréable compagnie, tendez la main et ouvrez vos cœurs. Ici Agnès Maltais, députée de Taschereau, qui vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année 2012 sur la musique du groupe Mythes et Légendes.
Saviez-vous que CKRL fait tranquillement sa place sur le web? Faites-la grandir et rejoignez-la dès maintenant. Twitter, Facebook, CKRL s'y trouve. Toutes les ressources sont accessibles à partir du portail ckrl.qc.ca. Rejoignez la communauté web de votre radio et les pages de votre émission préférée. Cultivez vos goûts grâce au 89.1. Cultivez tes goûts.
Cette soirée est une présentation du Bal du Lézard qui, à l'image de CKRL, vous offre une diversité colorée. 1049 3e Avenue, 418 529 3829.
Raymond Poirier toujours avec vous à La Vie en BD ici à CKRL. Je vous rappelle, vous pouvez toujours visiter le blog de l'émission lavieenbd.wordpress.com. On vous invite également à nous suivre sur Facebook, La Vie en BD, CKRL 89.1. Et de temps à autre, ben, je me réserve des petits moments pour vous parler des BD, de vous parler de mes lectures. Et ben, en fait, à l'aube des fêtes, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, quelques albums que je ne rechignerais pas si je ne les avais déjà de voir apparaître sous mon sapin. Notamment une lecture extrêmement attendue, en fait, par plusieurs, l'univers de Guy Delisle et de ses récits de voyage qui continuent de séduire tout un chacun. Ceux qui ont lu que ce ne serait-ce que Pyongyang, Shenzhen ou encore les chroniques birmanes avaient envie de se le mettre sous la dent cet album. On l'a eu en prépublication via le journal Le Monde, mais il n'y a rien de tel que de se retrouver avec l'objet papier dans les mains pour vraiment apprécier dans toute sa mesure là le travail de cet auteur qui a passé dans le fond une année à Jérusalem. Faut dire que dans les derniers albums, en fait, il suit son épouse qui, elle, travaille pour Médecins sans frontières, donc ce qui l'avait amené en Birmanie, ce qui l'amène en Israël. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment, en fait, une autre vision de cette réalité dont on entend beaucoup parler, une personne qui, un peu comme nous, dans le fond, avait peut-être une perspective X du conflit, de la réalité israélo-palestinienne, et qui, au contact de celle-ci sur un an, ben progresse un peu dans le regard, et nous aussi par extension dans le regard qu'on porte justement sur cet univers-là. Il faut dire que Guy Delisle se donne de bien doser, bien rythmer ses récits de voyage entre l'anecdotique et le très quotidien, ne serait-ce que de parler de l'achat de dans des supermarchés de colonies versus dans des boutiques, la réalité quotidienne des gens avec le Shabbat, les jours de fête et autres. Et parallèlement, de nous amener aussi dans des grandes préoccupations, le travail de Médecins sans frontières dans la bande de Gaza, la réalité sur le bord de la frontière lors de situations qui pourraient peut-être devenir une crise. Et éventuellement, on tombe aussi, puisqu'il était sur place dans cette période, donc autour du bombardement de Gaza par les forces israéliennes, et un très très gros conflit qui avait été très médiatisé il y a de ça quelques années. Alors il s'est dosé entre le grand et le petit, entre le quotidien et les événements majeurs. Et donc ce qui fait aussi qu'en tant que lecteur, eh ben on le suit d'un segment à l'autre, d'une section à l'autre, ça vient rythmer peut-être un peu ces récits de voyage, et ça nous place véritablement, en fait, dans cette situation, dans cette réalité. Donc ce qui aussi nous amène à donner une autre dimension aux événements, peut-être un peu plus important en termes de crise notamment. Donc un témoignage assez personnel, donc, de son séjour à Jérusalem en 2008-2009, qu'on vous recommande, en fait, que je vous recommande sans hésitation. Et ben, en fait, si ce n'est pour découvrir un autre regard sur cette réalité, et si ce n'est également, et si ce n'est déjà fait évidemment, pour découvrir un auteur qui a, je le répète, le don justement de savoir nous raconter ses séjours, ses voyages, ses perspectives, et sans jamais tomber dans ce qu'on pourrait appeler une certaine facilité. Alors ça, c'est Guy Delisle, les chroniques de Jérusalem, donc qui est disponible collection Shampoing. Sinon, petite mention au passage, en fait, c'est deux beaux objets qui sont arrivés sur mon bureau au cours de l'automne. Un premier aux éditions La Pastèque Nocturne de Pascal Blanchet, un autre aux 400 coups, Onésime, les meilleures pages d'Albert Chartier. Commençons par Nocturne, un petit mot. En fait, c'est je dis beaux objets, en fait, peut-être je mentionne pour les deux, mais c'est une belle reliure, un beau volume, vraiment, là. Ça, là-dessus, il n'y a rien à redire. Et dans Nocturne, en fait, je pense que le terme objet doit aller un tantinet plus loin. En fait, pour ceux qui suivent Pascal Blanchet, ses pages, ses ouvrages, ses traits design, il est d'abord et avant tout un illustrateur, et ça ressent. On peut pas parler de BD. Dans ce cas-ci, on peut parler peut-être de livres illustrés, d'histoires illustrées, des images à saveur rétro, qui sont très tendances aussi, qui sont très belles par ailleurs. Et un objet parce que, ben, en fait, c'est un récit, donc à travers ces images sans parole, avec très peu de texte, sur une mélodie jazz qui imprègne vraiment l'esthétique de ce volume, où on suit au final quelques histoires le temps d'une nuit pluvieuse à New York, autour de New York. Et sérieusement, là, vraiment, c'est une qualité de dessin qui pour ceux qui aiment ce style qui est très réussi, une capacité de narration aussi qui est très intéressante dans la mesure où on suit aisément justement ce qui se passe, la situation, l'évolution des situations. Bien entendu, c'est un récit qui se lit soit très très rapidement si on y va pour le côté narratif, mais par contre si on s'arrête à l'esthétique, ben là chaque page mérite justement un regard, mérite une pause, et donc un très très bel objet à saveur bande dessinée à se procurer. Et enfin, dernière petite note, toujours dans ces regards assez rapides, je l'ai mentionné à Nézim, les meilleures pages, c'est un peu dans le suivi. En fait, l'année dernière, l'équipe des 400 coups nous avait offert un best-of, si vous me permettez l'anglicisme, de Séraphin, les belles histoires des pays d'en haut. Alors, il récidive. Et je dirais, en fait, premièrement, que si vous avez apprécié le travail qui a été fait, la sélection qui avait été faite des belles histoires des pays d'en haut en BD de Séraphin l'année dernière, vous allez apprécier le travail qui a été fait également pour Onésime. C'est un peu dans le même style. La présentation est similaire. Mise en contexte, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins cet univers-là, l'une des premières bandes dessinées québécoises dans le bulletin des agriculteurs, un personnage important, en fait, dans l'évolution du 9e art au Québec et dans sa mise en place. Donc, on nous explique, on nous présente le contexte, et ensuite, eh ben, il y a les pages elles-mêmes qui, certes, sont ancrées dans leur époque, dans leur contexte, mais qui fonctionnent encore malgré tout, malgré le temps et malgré l'évolution des mœurs et des réalités. Donc, c'est un peu une plongée dans un certain passé au Québec, mais ça reste quand même une BD qui se lit bien, qui s'apprécie, qui fait sourire, et donc les pages qu'on lit par plaisir et pas seulement parce qu'elles ont été marquantes dans l'histoire de la BD à une certaine époque. Alors, une autre suggestion, je pense là, à l'aube des fêtes, que je vous lancerai, donc Onésime, les meilleures pages aux 400 coups par Albert Chartier. On reprend une pause musicale le temps que je reprenne mon souffle, et au retour, on reste dans les suggestions, 12 suggestions BD de Michel Giguère. Voilà, dernière sélection de Dick Dale avec Mr. Eliminator, toujours à la vie en BD ici sur CKRL. Et ben, comme on l'a dit avant cette petite respiration musicale, on reste dans l'univers BD, dans l'univers des suggestions, des idées, en route vers la fin de l'année, en route vers le début de 2012. Et c'est Michel Giguère qui m'a dit, ben, il me semble que pour commencer l'année, ce serait une bonne idée d'offrir quelques lectures à saveur réconfortante, que ce soit pour la finir ou pour la commencer, des BD qui nous font sentir bien, qui nous font sourire, qui font chaud au cœur. Et ben, Michel Giguère en a 12 pour nous ce soir. D'abord, mais Michel, bonjour.
Bonsoir, et à propos de faire chaud au cœur, la vue qu'on a d'ici sur la 3e avenue avec les flocons qui tombent, c'est ça aussi, c'est assez réconfortant. Oui. Mais tu sais qu'il y a plein de gens qui, à chaque année, voient s'approcher le temps des fêtes avec appréhension, pour qui c'est une épreuve à passer. Et soit à chaque année, ou alors à un moment, à une année précise en particulier, parce qu'il aurait été arrivé quelque chose de moche. Donc, je vous propose vraiment des suggestions. C'est vraiment une liste de titres. Il n'y aura pas de commentaires très approfondis. Je vais simplement essayer, en quelques mots à peine, de vous donner, vous, chers auditeurs et auditrices, une idée si vous aimeriez ou non, si ça vous ferait du bien ou non, de lire tel ou tel titre. Donc, prenez vos crayons, prenez un petit carnet, puis notez ça, ça va aller assez vite.
Et sinon, je passe le mot, si vous n'avez pas de crayon dans les environs, un peu plus tard aujourd'hui, sur le blog de La Vie en BD, lavieenbd.wordpress.com, on va mettre aussi la liste des titres proposés par Michel, alors pour la postérité, pour vous épargner peut-être...
Une tendinite,
voilà.
Alors, il y a face à des malheurs qui nous arrivent ou quand ça va mal, il y a deux réactions possibles en fait. Soit se divertir à tout prix et s'étourdir en se plongeant dans des récits de fiction qui sont complètement de l'ordre de l'imaginaire, etc. Ou au contraire, de se laisser baigner dans une certaine mélancolie, de pas trop s'éloigner de ce qu'on ressent à travers des récits qui, eux, nous renvoient plutôt à ce qu'on vit, nous tendent un miroir, et puis finalement nous font cheminer à travers ça, des fois nous permettent de dédramatiser un peu, de prendre du recul, et finalement même parfois de nous faire rire ou sourire. Alors, on commence avec quelque chose de très accessible pour qui aime bien retourner un petit peu visiter l'enfance. Calvin et Hobbes. Écoute, là, vous allez comprendre que j'y vais pas avec des choses récentes à tout prix, là. J'ai puisé dans tout le répertoire. Écoutez, ça, peut-être qu'à prime abord, tout le monde pense que c'est juste du gag, là. C'est juste des affaires de...
Non, mais c'est vraiment touchant.
Petits comiques de journaux. Oui. C'est un ultime chef-d'œuvre, qui oscille entre l'hilarité et l'émotion, souvent. Et c'est très attachant, très touchant. Deuxième suggestion. On va rester un petit peu dans pas l'enfance, mais plutôt l'adolescence. C'est la série Lou qui peint un portrait fort sympathique d'une famille particulière, d'une mère célibataire qui élève seule sa fille adolescente. Et la série progresse dans le temps, si bien que Lou vieillit. Et on voit les deux filles, entre autres, en quête de l'amour, chacune avec son degré de maturité. Mais à propos, ce qui est assez original, c'est que la mère est une férue de jeux d'ordinateur et tout à fait irresponsable. Et finalement, l'adulte de la famille, c'est l'ado. C'est Lou qui est la plus sérieuse des deux. Alors, c'est très attachant, cette série-là aussi.
Oui, c'est intéressant, l'idée, en fait, de faire évoluer, de raconter une vie, finalement, à travers une bande dessinée, travers une série de BD.
On a vu ça dans des trucs plus réalistes, là, des séries où les personnages vieillissaient. Et puis, c'est bien de voir que maintenant, les BDistes vont le faire aussi avec des personnages à caractère plus humoristique. Par exemple, les Nombris, où il y a toute une évolution aussi d'un album à l'autre. Troisième suggestion, c'est pas très récent non plus, dans la série Broussailles, le tome 3, qui s'intitule « La nuit du chat », où Broussailles, pendant toute une nuit blanche à chercher son chat qui s'est perdu à travers la ville, va faire des rencontres et curieusement passer de l'adolescence à l'âge adulte en une seule nuit. Donc, c'est une BD, encore une fois, qui a l'air tout à fait inoffensive.
Mais c'est un récit initiatique, finalement.
Tout à fait, et c'est vraiment une espèce de voyage intérieur que nous propose Franck Ebaum, en fait, donc Broussailles. Quatrième suggestion, c'est presque si on imaginait Broussailles une fois adulte, c'est la série Monsieur Jean, du célèbre duo Dupuis-Berbérian. Une série qui se renouvelle d'album en album. Les deux, on voit que les deux auteurs cherchent à, soit sur le plan graphique ou narratif, à aller chercher des trouvailles, une façon différente de raconter.
Et c'est toujours stimulant comme ça, parce que souvent, on reproche aux séries justement leur trop grande constance où les auteurs trouvent une recette et la répètent d'album en album. Donc c'est plaisant de mettre au défi un peu notre lectorat comme ça, de se retrouver en partie et de se mettre en danger en partie. Là.
Tout en s'assurant que le lecteur va retrouver ses balises et ses repères. Et va, on aime bien l'impression aussi de chausser des vieilles pantoufles. Alors, Monsieur Jean, je vous suggérerais de les lire dans l'ordre, parce que, encore une fois, le personnage va vraiment évoluer au fil de sa vie personnelle, professionnelle, sentimentale. Et c'est plein de finesse et de drôlerie. C'est vraiment un trentenaire à notre époque. Lui, bon, il vit à Paris, mais ça pourrait être n'importe où. Cinquième suggestion. Encore l'enfance. En fait, c'est un beau portrait trigénérationnel entre une femme, sa fille et sa mère. Et ça s'appelle Eva aux mains bleues. Lisez, vous saurez pourquoi les mains bleues.
Il faut garder des punchs, là.
Punch étant un grand mot, parce que c'est un récit très tranquille, mais c'est une super belle lecture, et c'est de voir ces personnages-là féminins, là. Et d'ailleurs, l'auteur est Isabelle Dotan, donc c'est 100% féminin comme BD. Sixième suggestion, je pense que je vais accélérer un petit peu. En fait, c'est plutôt un auteur, c'est Hiro Taniguchi. Et puis, ma foi, vous pouvez y aller, là, soit avec Année douce, Le promeneur, Un ciel radieux, Terre de rêve, L'orme du Caucase, Le journal de mon père ou Quartier lointain. C'est dans son œuvre qui est très prodigue, c'est quelqu'un qui produit beaucoup. C'est les titres qui m'ont paru faire partie de cette part de l'œuvre de Taniguchi qui se veut, ma foi, zen, lente, sereine. C'est rien de pelletage de nuages ou de d'ésotérique, là.
C'est le quotidien, en fait. Le quotidien zen, le côté méditatif, et peut-être, je vous dis, de la vie, là.
Ou alors, moi, qui est pas très porté sur la méditation, qui est plutôt un peu boulimique. Enfin, un mot-clé aussi, c'est la conscience. La conscience du moment qui passe. La conscience de l'espace autour de soi. Entre autres, Taniguchi a fait deux albums axés sur la marche de deux personnages qui ne font que marcher à travers la ville et réfléchir et un peu plonger dans leurs pensées, là. Donc ça aussi, ça peut faire du bien. Et cette lenteur-là, ma foi, ça fait du bien parce que on vit une époque hystérique, là, sur le plan
de tout le temps, là.
Ben nous on court, et puis tous les récits de fiction sont super accélérés, que ce soit des, ben, disons que du côté roman, il y a encore un peu une partie de cette lenteur-là. Alors, après la BD japonaise, septième suggestion, on retourne du côté du franco-belge. Un album qui s'appelle, un titre un peu intriguant, L'aigle sans orteil. C'est, ma foi, si ça vous tente de vous laisser inspirer par un héros qui a pas de super pouvoir, ni un gros calibre, mais seulement une détermination à toute épreuve, un type tout simple, de peu de mots, qui rêve de faire le Tour de France, qui s'entraîne, qui met de l'argent de côté pour s'acheter un bon vélo. Et ça se passe il y a exactement 100 ans, dans les années 1910. Et on est imprégné de cette époque-là. C'est un récit qui est très elliptique, qui la narration avance assez vite, puis en même temps, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'action. Et on est beaucoup dans la psychologie de ce personnage-là. Et comme je disais, il est de peu de mots, donc tout passe à travers tout ce qu'il fait pour réaliser son rêve. Ça fait un peu édifiant, tu sais, comme récit, avec bel exemple, mais c'est un très beau récit.
Et il y a le rendu, en fait, avec le dessin, il reste
de l'axe,
justement.
Ah oui, magnifique. Ensuite, septième, pour vraiment se bidonner en douce, mais intelligemment, avec deux Parisiens qui essaient de vivre à la campagne, Le retour à la terre, scénarisé par Ferry, dessiné par Larsenet. C'est le pendant plus léger du Combat ordinaire, pour ceux qui connaîtraient plus le Combat ordinaire. Ensuite, huitième suggestion, pour célébrer le quotidien, un quotidien avec une douce moitié, avec un bébé et un chat. Donc, vraiment, la vie, tu sais, vraiment, c'est la célébration de la vie ordinaire. C'est Mon petit nombril de Pascal Colpron, québécois.
C'est vraiment, c'est une BD qui est cute, si on me permet l'anglicisme. Ouais. En fait, c'est vraiment les débuts de la paternité, l'expérience de la paternité, vue sous le fil de l'humour, de ce qui la rend touchante et drôle en même temps.
Puis en même temps, il y a c'est pas nécessairement rose bonbon et tout n'est pas nécessairement beau, parce que c'est tout en étant mignon, tout en étant attachant, il reste qu'il y a une certaine lucidité, puis c'est pas facile tous les jours, mais c'est toujours par le filtre de l'humour, ça passe très bien. En neuvième place, franchement, il y avait pas d'ordre comme tel, mais il y a sinon Ma voisine en maillot de Jimmy Beaulieu. C'est sûr que là, c'est l'hiver, il fait froid, donc dans Ma voisine en maillot, il y a une canicule épouvantable qui sévit à Montréal, donc ça va vous dépayser et vous réchauffer. Mais aussi, c'est vraiment pour vous permettre de croire à nouveau à la possibilité de rencontrer, de faire des belles rencontres et peut-être de rencontrer l'amour. Donc c'est un album qui peut vous faire rêver à ce niveau-là. Ensuite, pour... ça va vous paraître curieux, pour les mordus des romans de Jacques Poulain, et il y a beaucoup de gens qui sont des fidèles lecteurs, qui aiment d'amour Jacques Poulain, et pour qui, je pense à quelqu'un que je connais qui me disait dernièrement que c'était un refuge, puis que quand ça allait pas, elle lisait au compte-gouttes parce qu'elle veut s'en garder pour tout le reste de ses jours là, et puis elle veut toujours qu'il lui reste certains romans de Jacques Poulain à lire quand ça va pas puis qu'elle a besoin d'aller se réfugier.
Alors on peut rajouter la BD à la pile, c'est cette BD dont tu vas nous dire le titre.
Oui, Quelques mois à l'Émilie de Jean-Claude Denis, c'est tout à fait Jacques Poulien, si vous me permettez le néologisme. Et c'est l'histoire d'un écrivain qui est, pour ainsi dire, presque en dépression. Il faut pas se laisser rebuter quand une histoire, que ce soit au cinéma ou en BD ou autre, commence et que le personnage va mal. Moi, j'aime bien que quand ça part d'une difficulté et que le personnage va finalement aller au-delà. Finalement, c'est ça un héros, hein. C'est quelqu'un qui relève des défis et soit qui provoque des événements ou qui se surpasse, se dépasse lui-même, là. Et puis, ce type-là, donc, va plus rien ne lui tente jusqu'à ce qu'il tombe sur un curieux manuscrit qui va essayer de reconstituer le fil de l'histoire que ça raconte. Il va se rendre dans tous les lieux qui sont cités dans le manuscrit et tout ça va lui redonner une espèce de goût à la vie, mais il est en marge de la vraie vie, lui. Il est dans le récit de quelqu'un d'autre qu'il connaît même pas, et je vous dis pas la suite, c'est vraiment à lire. Et la dernière suggestion, et non la moindre, Un pavé de 500 planches de l'Américain Craig Thompson, Blankets, manteau de neige. On est encore là sous les flocons ce soir. C'est le récit d'un amour, un amour sacré. Les deux personnages grandissent et vieillissent dans des familles dites très chrétiennes aux États-Unis. Donc, ils ont un peu le sens du sacré, mais ils se sentent un peu étouffés dans les principes qui viennent avec cette éducation-là. Et ils ont envie de vivre leur amour vraiment pleinement. Et puis, Thompson reproduit cette bulle d'intimité-là d'une façon sensible en utilisant tous les procédés, tout le potentiel du médium. Et c'est 500 pages de pur bonheur avec un dessin tout à fait organique, énergique, sensuel, et entre autres des belles scènes d'intimité. Alors, une super belle histoire d'amour. Je disais, c'est un amour sacré, mais c'est le premier amour aussi, ceci expliquant peut-être cela.
Alors, on a fait 12 suggestions, et en fait, pour ceux qui se demandaient quoi faire en vacances, ben on court chez un libraire avant que ça ferme pour Noël. On se lance avec quelques titres, et pour en avoir lu quelques-uns là-dedans, en fait, c'est effectivement des titres qui nous font sentir bien, en fait, qui nous font sourire, et un peu l'image du paysage présentement à l'extérieur avec quelques flocons de neige comme ça. On prend un chocolat chaud et on se lance.
Voilà, on se laisse glisser.
Michel Giguère, merci beaucoup.
De joyeuses fêtes quand même.
Mais joyeuses fêtes à toi également.
Oui.
Voilà. Et ils seront joyeuses avec les lectures, je pense. Ah ben voilà. Et nous, ben c'est ainsi qu'on termine cette première partie de première saison de La Vie en BD. On se retrouve au début du mois de janvier. On vous tient au courant, bien entendu, via Facebook et via le blog de l'émission. C'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous pour cette émission. Eh bien, je vous souhaite un très, très joyeux temps des fêtes, le plus joyeux possible, évidemment. Alors, ben, on se revoit à très bientôt.